I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau podcast draft de l'univers Touchdown Actu. Et ça y est, nous y sommes, messieurs, dames. On rentre de plein pied dans ce processus draft au sortir de ce Super Bowl 57 extrêmement intense entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles. On va se plonger corps et âme vers ce processus draft avec notamment d'autres échéances qui vont arriver au cours des prochaines semaines, d'autres échéances puisqu'il y en a déjà eu dans ce processus draft au cours de ce début d'année 2023, et on va notamment s'y intéresser de près, à savoir notamment le Senior Bowl. Il y avait différentes petites compétitions, différents petits ateliers, on aura l'occasion de le développer avec mon comparse du jour, mais on fera notamment un gros focus sur cet événement incontournable annuel avec notamment certains principaux enseignements en fonction des positions. Et donc, pour traiter de tout cela, Jean-Michel Bougeard est avec moi. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Greg et bonjour tout le monde.
Un plaisir de te retrouver, comme d'habitude, avec un gros programme, en effet, qui nous attend, puisque... Alors, je le dis, le Senior Bowl, c'est habituel, hein, c'est un rendez-vous vraiment incontournable avant le Combine, etc., etc. Ça permet en tout cas d'avoir un petit avant-goût concernant certains joueurs ou certaines positions, mais c'est encore plus intéressant cette année parce que la situation, on dira, post-Covid faisant, avec pas mal d'années, entre guillemets, offertes en universitaire, on avait beaucoup de joueurs, enfin beaucoup plus que d'habitude en tout cas, qui pouvait prétendre avoir un statut senior et donc à pouvoir figurer au sein de cette compétition. J'ai pas le pourcentage en tête, mais c'est quand même un peu plus significatif que ce qu'on avait pu voir précédemment.
Oui, c'est vrai. Oui, ben par exemple un joueur comme Will McDonald qui a fait 5 années à Iowa State, un joueur comme Diane Henley, le linebacker de Washington State qui en a fait 6. Voilà, oui, effectivement, il y avait des joueurs aguerris, on va dire.
Tout à fait. Donc, différents événements, on abordera pas mal de bowls. Alors, on va commencer notamment par aborder différents joueurs qui nous ont un petit peu tapé dans l'œil. Alors, on rappelle que vous pouvez notamment, alors si vous avez le Game Pass, par exemple, ça va se retrouver également sur Internet. Vous avez la possibilité, bien entendu, de pouvoir voir le match. Alors, déjà, c'est ma première question, Jean-Mi, puisqu'on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, notamment concernant le Senior Bowl. Est-ce que toi, quand tu observes cette semaine... avec attention, tu t'intéresses plus aux ateliers ou aux circonstances de match ?
Ah, je m'intéresse plus aux ateliers quand même. Parce que le match, le truc, c'est que bien sûr que les situations de match, c'est toujours très intéressant, ça donne des indications, mais c'est le Senior Bowl, c'est-à-dire qu'il y a 100 joueurs dans chaque équipe, donc forcément les entraîneurs font une telle rotation que ce coureur, il a que 3 portées, ce receveur, il a que 2 cibles pour attraper les ballons, enfin bref, tu peux pas vraiment tirer des indications de fou, alors que lors des ateliers, même si c'est que de l'entraînement, je comprends, mais les 1 contre 1 entre un receveur et un cornerback, les 1 contre 1 entre un defensive back, lineman et un offensive lineman, bah ça donne des petits trucs, donc c'est plus les ateliers, ouais.
Il n'y a pas d'histoire d'automatisme à trouver là en l'occurrence, c'est un joueur contre un joueur quoi.
En plus il y a ça, évidemment, les joueurs se connaissent pas, donc ils connaissent pas leurs habitudes, le quarterback il sait pas comment ce receveur fait ses tracés, enfin bref, ouais, le match c'est toujours bien qu'il y ait un match, évidemment, mais bon.
Et c'est juste par curiosité, du coup, si on prend justement les ateliers qui sont les plus suivis, t'es plus intrigué par les linemen offensifs contre les linemen défensifs ou par les receveurs contre les DB?
Ah, oh, ben les deux, c'est très intéressant.
On ne choisit pas, monsieur.
Ouais, allez, je vais quand même choisir celui-là qui est vraiment beau, c'est le Oklahoma Drill. Donc c'est vraiment les defensive linemen face aux offensifs, parce que ben voilà, c'est quelque part c'est un petit peu la base du football. Et puis même si on peut dire que c'est juste du 1 contre 1 comme ça à l'entraînement, mais au final on leur demande quoi dans les matchs à ces gars-là, à ces hommes de ligne? Ben on leur demande la base de leur travail, c'est ça, c'est le 1 contre 1 face au big guy en face d'eux. Donc oui, celui-là, puis en plus c'est spectaculaire quoi. Avoir des joueurs aussi massifs bouger de cette façon et essayer de s'aplatir par terre, c'est toujours spectaculaire. Moi, j'aime bien celui-là, oui.
Alors, je le répète, donc du coup, il y avait le Senior Bowl qui était un peu l'attraction de cette fin janvier, début février, hein, l'événement annuel qui se déroule du côté de Mobile dans l'Alabama. Alors, juste que je reprécise un petit peu, les joueurs qui sont éligibles pour la draft reçoivent donc chaque année des invitations pour participer justement à ce type d'événement, ce qui leur permet bien entendu d'être mis en lumière et de montrer éventuellement de quoi ils sont capables. Ils peuvent être invités au Senior Bowl, mais ils peuvent aussi être invités sur d'autres compétitions. Après, c'est à eux de choisir. On en voit certains qui font plusieurs bowls en l'occurrence. Il y a le Senior Bowl du côté de Mobile. Il y a eu le Shrine Bowl également, dont on parlera tout à l'heure. Enfin, incessamment sous peu, qui se déroulait du côté de Las Vegas, me semble-t-il.
Ouais, ouais.
Et il y avait également d'autres compétitions. Alors, il y a le Collegiate Bowl, qui est plus chaperonné par la NFLPA, l'association des joueurs. Et le Hula Bowl, je sais que ça vous a beaucoup amusé au niveau de la rédaction de TDA. Où là, pour le coup, il n'y avait pas forcément que des grands, grands profils. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui sont peut-être un peu moins en vue, peut-être pas forcément invités dans les plus gros bowls qu'on a cités précédemment, mais qui peuvent éventuellement avoir voix au chapitre par le biais de cet événement qui se déroule, je crois, du côté d'Honolulu. Donc en plus, ça ne gâche rien en l'occurrence. On rentre donc dans le vif du sujet, Jean-Michel, pour la première partie de cette émission, et notamment les joueurs qui nous ont tapé dans l'œil. On va s'intéresser justement au Shrine Bowl. Alors, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Ça sera peut-être en contradiction avec ce qu'on va dire un petit peu plus tard, notamment en fin d'émission. Il y a beaucoup de joueurs offensifs qui ont marqué des points, je trouve, durant ce début de période, ce début de processus draft, et notamment un lineman offensif que tu as suivi d'assez près à l'occasion de ce Shrine Bowl du côté de la Legend Stadium.
Oui, c'est ça, exactement. Un tackle gauche, il s'appelle Trevor Reed, et il joue à Louisville. Alors, je t'avoue que Trevor Reed, cette année, je ne l'ai pas trop vu. Alors, je voyais Louisville, je voyais le quarterback très mobile, Malik Cunningham, et donc, bon, j'avais pas trop fait gaffe à ce tackle gauche, mais alors, au Shrine Bowl, il m'a vraiment impressionné. Parce que le type, déjà, ben, il est grand, il a une très grande envergure. Et bon, vous le savez, hein, tous les ans, on dit « Ah, mais ce lineman a des bras trop courts, donc voilà, c'est pénalisant. » Pourquoi c'est pénalisant et pourquoi c'est un avantage lorsque tu as des longs bras? Ben, c'est parce qu'un peu comme pour un boxeur ou un judoka, ça te permet déjà, au premier contact, d'avoir l'avantage de la longe. Ça te permet également, quand le lineman offensif est dépassé, ben, avec ses longs bras, il reste quand même au contact pour repousser un petit peu le rusher, voilà, du bout des mains, comme ça. Et des fois, ça le dévie suffisamment de sa trajectoire. Et Trevor Reed, il a ça, il a de très longs bras. Alors, il n'a pas juste de très longs bras, il a un très bon jeu de pied, il est très vif. Lors de ce match, au Shrine Bowl, il était impressionnant en protection, il n'y a absolument rien qui passait. Il était toujours en miroir avec son pass rusher, c'est-à-dire qu'il ne lâchait pas d'une semelle. Et moi, il m'a vraiment impressionné. Alors, du coup, je suis allé retourner voir un petit peu des vidéos des matchs de Louisville. Et j'ai vu qu'en plus, ben, sa mobilité, elle est aussi en action lors du jeu de course, notamment quand il faut décrocher sur le second rideau et aller aplatir un linebacker. Voilà, donc c'est un joueur qui peut apporter en protection et qui peut apporter aussi pour le jeu de course. Il n'est pas parfait, évidemment, notamment sur le haut du corps. Il faudra qu'il prenne encore un petit peu de masse musculaire. Il peut se faire boule rouchée, par exemple. Mais c'est un joueur très intéressant. Et je pense que si je l'ai remarqué, il y en a d'autres qui l'ont remarqué. Je veux dire, par exemple, le Shrine Bowl, il faut dire ce qui est. Tous les ans propose un plateau, un niveau en dessous du Senior Bowl. Sauf que Shrine Bowl 2022, il y avait quand même Brock Purdy, hein. Il y avait quand même James Houston qu'on a vu briller, le pass rusher avec les Lions, on a vu le Titan Jelani Woods, etc. On a vu aussi l'année dernière les Patriots qui ont drafté trois joueurs qui étaient au Shrine Bowl. Tyquan Thornton, Jack Jones, Pierre Strong. Et il se trouve qu'en plus, cette année, les Patriots étaient en charge d'une équipe. Voilà, il y avait deux staffs professionnels, les Patriots d'un côté et les Falcons de l'autre. Et quand tu vois que les Patriots, ben, il y a Isaiah Wynn qui est free agent, quand tu vois que Trent Brown est encore bon, mais un petit peu vieillissant, ben, si moi j'ai remarqué que Trevor Reed était très bon, ben, Bill Belichick qui était là, qui était présent, il a peut-être vu aussi que Trevor Reed était bon et que ça pourrait être un choix de draft.
Oui, non, c'est sûr. Et surtout, comme je dis, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Trevor Reed, on va dire, rassure un peu plus dans un domaine où il pouvait en tout cas être attendu un peu au tournant. C'est vrai que du côté de Louisville, et de par notamment le côté très mobile de Malik Cunningham, que certains ont pu voir par exemple du côté du Senior Bowl, hein, qui malheureusement a quelques petits problèmes de blessure, enfin est sorti en tout cas un peu prématurément. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette capacité à pouvoir être efficace sur le jeu au sol. Tu l'as dit, c'est un vrai mammouth. Hein. Voilà, on voit que du côté Louisville, on mange bien. On rappelle que c'était la même fac que Mekhi Becton il y a quelques années que ça. Et c'est vrai que voilà, là, le fait qu'il soit capable, en effet, de tenir en respect les rushers qui sont présentés face à lui, ça peut pas forcément être une mauvaise chose, surtout dans cette classe de tackle plus globalement. Alors, c'est ça ma question. Tu le vois quand même rester sur l'extérieur à long terme, malgré tout, ou peut-être plus se recentrer et apporter une plus-value sur le pass pro?
Ah ouais, non, moi je le vois vraiment à l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment un tackle gauche, hein, par sa capacité en protection, il est impressionnant. Après, c'est toujours possible, évidemment. Par exemple, sur la ligne offensive, si tu as un système de zone qui donc demande beaucoup au lineman offensif de savoir décrocher, de savoir bouger, évidemment, tu peux aussi en faire un guard et il sera très efficace. Mais je pense qu'il a ce qu'il faut pour rester au poste de tackle.
Très bien. Bon, en tout cas, on suivra ce que va donner Trevor Hill. Il figure sur la liste du combine. J'avoue qu'avec tous les noms qui y figuraient, j'ai pas forcément enlevé. J'ai essayé de retrouver ça. Tout de suite dès que j'arrive à remettre la main dessus, je vais en profiter pour rebondir notamment sur d'autres joueurs offensifs qu'on a pu voir à l'occasion du Senior Bowl, là pour le coup vraiment du côté de Mobile, des cibles sur deux positions, receveur et tight end. Alors il y en avait un qu'on connaissait quand même pas mal, Jean-Mi, qui était Luke Musgrave, le tight end d'Oregon State, qui malheureusement avait une saison 2022 extrêmement écourtée, avec notamment deux rencontres seulement jouées, 169 yards et un touchdown. Mais on a eu confirmation, en tout cas, qu'on avait affaire à un spécimen athlétique, notamment un tight end extrêmement véloce. C'est presque un receveur plein centre, quoi. C'est vraiment ce type de profil-là, un Greg Dulcich 2.0. Et juste pour mettre ça en parallèle, et après je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Celui qui a beaucoup marqué des points également, c'est Michael Wilson de Stanford, qui a les mêmes problématiques, et c'est aussi pour ça que j'ai mis les deux un petit peu dans le même panier que Luke Musgrave, c'est-à-dire que en effet, le talent est indéniable. Un très grand receveur de Stanford, alors je vais pas faire des comparaisons perpétuelles, parce que comparaison n'est pas raison, mais voilà, il y a un côté très J.J. Arcega-Whiteside, hein, si on prend un ancien de Stanford. En tout cas, il y a cette capacité à être dangereux en homme à homme, et il l'a démontré tout au long de cette semaine du côté de l'Alabama. Cette saison, c'est seulement 6 matchs joués du côté de Stanford, mais plus de 400 yards et 4 TD. Donc, il y a quand même malgré tout cette véritable tendance à être une menace dans le domaine aérien, et qui sera précieux. La principale problématique là-dedans, Jean-Mi, c'est de savoir jusqu'à quel point on est capable de monter pour aller chercher ces deux joueurs-là, parce que le talent en tant que tel, il est indéniable.
Oui, c'est ça. Ben écoute, si je commence par Michael Wilson, je dois t'avouer que moi, c'est un joueur que j'avais pas du tout suivi, mais alors pas du tout. Évidemment, je suis tous les samedis ce qui se passe dans le football universitaire, mais il y a tellement de matchs. Et Michael Wilson, le souci, c'est que il a eu une grosse blessure en 2020, une grosse blessure en 2022. Je veux dire, ok, c'était une recrue cratétroile, on avait entendu parler de lui, mais franchement, bon, voilà, il est tout le temps blessé, le gars. Et là, on l'a vu au Senior Bowl, et on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est-à-dire que il a suffisamment de taille, il est pas énorme, c'est un gars qui fait 6-2, mais quand même, il a suffisamment de taille, il a de très belles qualités pour se faire de la séparation, il a plutôt de bonnes mains, et vraiment, il a marqué des points, et je pense que son nom est rapidement monté sur les boards de tous les recruteurs NFL. Alors, rapidement monté, on va rester calme, pour moi, c'est pas avant un troisième tour, notamment avec son historique de blessure, mais c'est effectivement un joueur très intéressant. Luke Musgrave, c'est un petit peu la même problématique. On savait que c'était, comme tu dis, voilà, un potentiel athlétique incroyable. Et ça, c'est très important à la position de tight end. Et il a confirmé, là, au Senior Bowl, que ce soit lors des ateliers ou même du match, on l'a vu, la façon qu'il a de savoir s'imposer dans les catchs contestés, la façon qu'il a de pouvoir se démarquer, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est vrai que si tu regardes que les stats, tu dis, ah ouais, d'accord, c'est même pas 200 yards, un touchdown, c'est qui ce gars, c'est rien. Mais en fait, non, voilà, il a un gros potentiel. Ouais, deux joueurs qui ont vraiment marqué des points.
Ouais, c'est ça. Et vraiment, Musgrave, ça va être très intéressant à suivre, parce que derrière Michael Mayer, en tout cas, ça paraît extrêmement ouvert. Alors, il y a forcément Dalton Kincaid de Utah qui ressort beaucoup, qui a peut-être un profil un peu plus complet, on dira, d'un point de vue gabarit et ce qu'il est capable de faire. Et c'est vrai que Musgrave, oui, il y a une grosse, grosse hype à son sujet, et voilà, il y en a beaucoup qui parlent d'un deuxième tour, par exemple, hein, mais bon, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, encore une fois, d'un point de vue potentiel et de ce qu'il peut apporter sur le terrain quand il y figure, il a clairement confirmé et marqué des points à l'occasion de cette semaine du côté du Cénarbol. On passe à la deuxième partie de cette émission. Jean-Mi, question un petit peu de débat. Alors, je sais pas si on va se battre vraiment là-dessus, hein. Je vais essayer de défendre un argument, mais voilà, je sais que je serai attendu au tournant de toute façon, ne serait-ce que par certains rédacteurs du site. Il y a quand même un joueur, on parle de prospects qui ont marqué des points au cours de cette semaine, notamment du Senior Bowl. Alors, c'est pas que depuis le Senior Bowl, mais on a eu quand même une semaine assez sensationnelle de la part de Tajay Spears, running back de Tulane, hein, qui sort d'une saison 2022 absolument canon, d'un bowl notamment où il a donné énormément de maux de tête à la défense de USC pour permettre à Tulane d'aller chercher un bowl à la surprise générale et au prix d'une belle remontée. Et là, on a l'impression que pendant toute cette semaine du Senior Bowl, alors ce n'était pas forcément l'intérêt, mais il a quasiment passé toute sa semaine dans la end zone.
Oui, Tajay Spears, il a été vraiment impressionnant, c'est incroyable, c'est un joueur qui a fait une superbe saison. Moi, je t'avoue qu'en début de saison, c'est pas un joueur que j'avais vraiment remarqué. Et puis c'est Nitti, notre compère du site, qui faisait tous les samedis et tous les dimanches donc le récap de ce qui s'était passé le samedi. Un jour, Nitti m'envoie un message, il m'a dit, oh, tu as vu ce running back, Tajay Spears, il est vraiment incroyable. À partir de là, j'ai commencé à le suivre. Et effectivement, le gars, il fait 1600 yards au sol, 19 touchdowns. Et si je reviens sur le Senior Bowl, mais c'est incroyable. À chaque atelier, il prenait le ballon, il partait et personne ne pouvait l'arrêter. Alors, ok, c'est de l'entraînement, les linebackers arrêtent leur plaquage, etc. Mais tu voyais que sa capacité à être vraiment élusive, à vraiment éviter tout le monde. En plus, il a montré qu'il avait des bonnes mains, et ça, c'est très très important dans la NFL moderne. Donc là-dessus, toi et moi, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Tajay Spears qui a fait une très bonne saison, en plus, il a marqué des points au Senior Bowl. Là où on a un débat, c'est que voilà, la question qu'on vous annonce là maintenant, c'est que Grégory, tu m'as dit, Tajay Spears au premier tour.
Alors,
Et donc, je vais t'écouter, Tajay Spears au premier tour.
la question c'est de savoir est-ce qu'il a le potentiel ou en tout cas est-ce que les scouts vont tomber amoureux de ce joueur au point de le sélectionner au premier tour et dans le même élan, est-ce que de ce qu'on en perçoit et du coup est-ce que de notre avis personnel, sa prestation en fait peut-être le deuxième running back du plateau? C'est plus aussi dans cette idée-là parce qu'il y a un Bijan Robinson qui semble indéboulonnable sur la position de coureur, hein, de par toutes les qualités physiques, athlétiques, tout ça, tout ça. Mais Tajay Spears, il y a quand même un profil assez complet malgré tout. Alors, ce qui joue très clairement en sa défaveur, et on reste en NFL avec des observateurs qui parfois sont un peu têtus au fil des années, c'est là encore son gabarit. C'est 1m78 pour à peu près 85 kilos. Donc, voilà, très clairement, on a vu des running backs beaucoup, beaucoup plus costauds. Et d'un point de vue de durée de vie, pour parler ainsi, pour les running backs, c'est toujours quelque chose qui inquiète. Et c'est bien entendu en ça que je me doute qu'un premier tour, c'est pas forcément quelque chose de très judicieux pour pas mal d'équipes. Maintenant, est-ce que la question, c'est peut-être plus un parallèle? Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation qu'un Clyde Edwards-Helaire, par exemple, que peu de gens forcément voyaient venir, ou en tout cas, peu de gens considéraient que malgré le talent, il montrait extrêmement haut et qui avait fini à la fin du premier tour. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément rassurant vu ce qu'on voit, vu ce qu'on a vu de la suite de la carrière malheureusement de Clyde Edwards-Helaire. Mais en tout cas, ça peut interroger sur le fait qu'une équipe peut éventuellement se laisser tenter ou en tout cas le considérer comme un numéro 2 de cette classe, encore une fois, peut-être devant un Jahmyr Gibbs, devant un Zach Charbonnet, avec un profil extrêmement atypique et qui, du coup, si on en tombe amoureux, peut éventuellement convaincre.
Oui, c'est un très bon exemple, Clyde Edwards-Helaire. Franchement, on l'avait vu avec LSU, c'était un bon joueur, mais quand il a été choisi au premier tour, déjà, j'étais surpris qu'il soit pris au premier tour. Et j'étais encore plus surpris qu'il soit pris avant Jonathan Taylor, par exemple. Tu vois, vraiment, je comprenais pas. Mais bon, son début de carrière était bon. Après, ben, c'est les blessures, hein, on le sait, cette position, c'est la plus exposée au choc. Donc oui, pourquoi pas Tajay Spears. Après, c'est vrai que moi, je trouve que Jahmyr Gibbs d'Alabama, vraiment, il est tellement explosif sur ses appuis, il apporte tellement dans le jeu aérien également que je vois pas comment Spears pourrait lui passer devant. Et donc, pour moi, Spears, oui, très bon, mais il sera en jeu que pour être le troisième running back de cette QV. Pour moi, c'est ça le souci. Et le souci, c'est que cette position, si elle est dévaluée, c'est pas tellement parce que c'est une ligue aérienne, parce que ça court aussi quand même, hein, c'est pas la question, mais c'est parce que chaque année à la draft, il y a tellement de bons running back qui se présentent, mais absolument tous les ans. Et cette année, c'est encore plus impressionnant. Je veux dire, tu en as déjà cité trois, on peut rajouter Chase Brown, Sean Tucker, Abani Kanda, Devon Achane, Juice Vaughn, Chris Rodriguez, Kenny McIntosh, etc., etc. Donc du coup, si tu es une franchise NFL, tu te dis mais pourquoi je vais investir un choix de fin de premier ou du deuxième tour sur un running back alors que au quatrième j'aurai un très bon joueur pour mon comité. C'est ça qui fait que cette position est un peu dévaluée, parce que sur le talent pur, effectivement, tu as raison, Taj Spears, attention, vous en entendrez parler le dimanche l'année prochaine, il n'y a pas de problème.
C'est ça, parce que vraiment, ce qu'il a surtout mis en avant, je trouve, durant ce Senior Bowl, on ne les découvrait pas, mais c'est vrai qu'il a des appuis assez phénoménaux, pour le coup, et il a une aptitude à être un vrai danger en sortie de backfield. C'est vrai qu'on a vu certains joueurs, certains running backs qui n'ont pas forcément assuré dans ce domaine-là, qui étaient peut-être un petit peu en retrait. Je pense à un Cameron Peoples, par exemple, qui a beaucoup souffert d'un point de vue réception. Taj Spears, en l'occurrence, voilà, il n'y a pas que la vivacité et que l'explosivité en sortie de backfield. Il y a aussi cette aptitude à proposer une solution rapidement et surtout à être capable de la concrétiser. Et voilà, dans une NFL où, mine de rien, les running backs sont de plus en plus utilisés comme des gadget avec des grosses guillemets, Taj Spears, en effet, ça peut être un profil intéressant, mais c'est sûr que voilà, je te rejoins et c'est en ça que du coup, c'est plus un échange que vraiment un débat, parce que voilà, tu auras du mal à défendre totalement à corps et à cri le fait que Taj Spears sera un premier tour absolu en avril prochain. Voilà, en tout cas, ça peut être un élément à suivre dans cette classe de running back qui, certes, est profonde, mais qui présente peu de profils, je trouve, assez similaires à ce que peut représenter Spears. D'un point de vue global. On passe à cette troisième partie, on va faire un point un peu plus global, on va dire, sur le Senior Bowl, et notamment se tourner un peu plus de l'autre côté du ballon, avec notamment la défense, puisque cet événement était l'occasion de s'intéresser notamment à des positions défensives qui étaient déjà assez profondes, assez fournies, et ça nous permettait d'avoir une petite vue d'ensemble un petit peu, savoir si la hype était un peu avérée, on va dire, si c'était vraiment quelque chose à prendre au sérieux. On parle quand même, pour les positions qu'on va aborder, de possiblement peut-être au moins 5-6 joueurs au premier tour, à minima, j'entends. Et du coup, bah, je vais te laisser développer là-dessus, surtout que c'est une position qui est chaque année très suivie. On attendait notamment de savoir ce qu'allait devenir des pass rushers dans ce Senior Bowl. Alors, est-ce qu'il y a des profils, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont sauté aux yeux tout particulièrement, et qu'est-ce que tu retiens de la classe en règle générale ?
Ah ben, la classe, elle est fantastique. Hein. Je veux dire, ça fait des mois qu'on vous annonce que cette draft sera défensive. Évidemment qu'il y a des bons joueurs offensifs aussi, mais c'est une classe défensive, et notamment pour deux postes très très importants, celui de edge rusher, comme tu dis, et celui de cornerback, dont on va parler tout à l'heure. Et les edge rushers, oui, c'est incroyable. Alors bien sûr, il y en a qui n'étaient pas là, les underclassmen comme Will Anderson, B.J. Ojolari, Miles Murphy, etc. Mais au Senior Bowl, il y avait beaucoup de très bons joueurs. Alors le premier d'entre eux, celui qui a la meilleure cote, c'est Tyree Wilson. Il était au Senior Bowl, mais simplement pour rencontrer les équipes, pour les entretiens.
On rappelle que on rappelle que c'est blessé en fin de saison, donc il y a peut-être aussi ce truc de peut-être pas précipiter d'anticiper un retour, et en effet, pour rejoindre ce que tu dis, de faire baisser sa cote par rapport à ça.
Ouais. Ouais, et ceux qui étaient sur le terrain, et ben, il y en a plusieurs qui ont confirmé de très belles choses, comme par exemple Will McDonald de Iowa State. Voilà, il a signé presque 30 sacks sur les trois dernières saisons, donc c'était pas une surprise, et on l'a vu là aussi lors des ateliers. C'est quelqu'un qui est très rapide, qui a un très bon bend. Hein. Le bend, c'est la capacité à savoir se pencher pour contourner le lineman sans perdre de vitesse. Ben voilà, Will McDonald, il peut apporter ça. Alors il est un petit peu plus âgé, mais c'est un très bon joueur. On a eu la confirmation aussi de Derrick Hall, le pass rusher d'Auburn. C'est quelqu'un qui est très explosif, et là où il est impressionnant aussi, je trouve, c'est que c'est pas du tout le gabarit le plus imposant. Je veux dire, c'est pas un Miles Murphy, c'est pas un Luca Van Ness, et pourtant il est très puissant, parce qu'il joue bas sur ses appuis, il a une bonne technique de main. Je veux dire, on l'a vu avec Auburn, il fait beaucoup de plaquages pour perte, parce qu'il arrive à battre le lineman offensif et à aller plaquer le coureur avant même qu'il franchisse la ligne d'engagement. À minima, ça serait un bon edge setter, comme on dit, c'est-à-dire qu'il peut contrôler son côté, mais il peut aussi apporter la pression, et il a confirmé lors du Senior Bowl. On a vu aussi Isaiah Foskey, par exemple, le joueur de Notre-Dame. Alors oui, il n'est pas encore tout à fait prêt, il y a des choses à travailler, mais alors quel potentiel, Isaiah Foskey. Je veux dire, il est grand, il est très rapide, c'est vraiment l'edge rusher type, quoi. Je pense que sa saison rookie, ce sera davantage un joueur utilisé sur troisième tentative, mais ensuite il peut se développer, c'est un super talent. Un peu dans le même style, mais alors lui, il déçoit un petit peu, je trouve, c'est André Carter de Army. C'est un phénomène physique, il est très grand, il est très rapide, il avait fait une saison de 2021 à 15 ou 16 sacks. Et puis en 2022, ben, il n'a pas refait la même. Et lors du Senior Bowl, ben, on a vu que ce physique-là, très longiligne, ben, il manque quand même un peu de puissance. Donc on voit qu'André Carter, finalement, on le voit beaucoup annoncé au second tour, mais moi je pense qu'il sera pris plus tard. C'est vraiment, c'est un projet, c'est un joueur intéressant, mais il y a tellement de choses à travailler. Après, on a vu d'autres bons joueurs. Tu sais, ce type de bon joueur que tu prends au troisième tour et qui est vraiment t'apporte dans une rotation, on le voit en NFL, c'est important d'avoir une bonne rotation. Là, on a vu Kadji Henry de Clemson, on a vu Byron Young de Tennessee. Voilà, on a vu tous ces joueurs qui peuvent apporter dans une rotation. Au poste de edge rusher, c'est vraiment une très très belle cuvée.
Oui, je te rejoins. Vraiment, il y a en fait, ce qui est presque assez intriguant sur cette classe-là, c'est que les plus gros noms, on dira certains que tu as cités, ont été intéressants, mais sans forcément crever l'écran. En tout cas, ont montré que voilà, qu'ils avaient largement leur place potentiellement dans les trois premiers tours. Mais je pense par exemple à un Zaya Foskey où certains s'attendaient vraiment peut-être à des prestations éblouissantes, ne serait-ce que de part de gabarit du bonhomme. Après, voilà, il y a aussi des joueurs en face. Keyon White également, qui était une grosse curiosité, le edge rusher de Georgia Tech, et dont on attendra peut-être plus le combine éventuellement pour voir la totale étendue de son talent. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on a des edge rushers qui étaient un peu plus en retrait. Là aussi, tu as cité quelques noms, mais qui, eux, se rapprochent à mon sens encore plus. Ça crée, j'ai l'impression, une espèce de classe encore plus homogène. Et c'est vrai que par exemple il y a des profits, on a cité quelques-uns, mais un Lonnie Fels par exemple de Kansas a démontré des très bonnes choses, et je trouve qu'il y a une certaine polyvalence, c'est-à-dire que c'est un joueur qu'on peut utiliser dans pas mal de systèmes et qui est capable d'avoir vraiment une vraie vivacité pour contourner le lineman et être efficace au niveau supérieur. Adé Adebawore, c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, le edge rusher de Northwestern, mais ça a été une valeur sûre du côté du campus d'Evansford ces dernières années, et c'est un profil extrêmement puissant et athlétique à la fois. Donc vraiment là aussi c'est un joueur qui peut apporter, qui peut être extrêmement polyvalent et être un projet très intéressant pour les premières années, notamment en NFL. Et puis un joueur qui est plus une curiosité à l'heure actuelle, mais qu'on a vu à son avantage sur certaines séquences, notamment sur des ateliers, c'est Carl Brooks, le lineman défensif de Bowling Green, profil très atypique, joueur qui joue sur l'extérieur mais qui a vraiment un très très gros gabarit, et qu'on a vu en effet capable d'être assez intimidant et de pouvoir être utilisé sur certaines séquences notamment pour bull rusher notamment. Donc c'est vrai que c'est une classe assez intrigante, et je te rejoins, c'est vrai que ce Senior Bowl en tout cas nous rassure un petit peu là-dessus. Voilà, je vais pas répéter globalement ce que tu as dit. Moi, j'étais très agréablement surpris. Je découvrais pas la qualité du bonhomme, mais par un KJ Henry. C'est vrai qu'on le met pas suffisamment en avant parce que, bah, il y a un Miles Murphy de l'autre côté, du côté de Clemson, mais on voit là aussi que, voilà, le côté très longiligne, le côté très agressif au contact, c'est vraiment un joueur qui peut monter en puissance très rapidement. Donc, voilà, je vais pas faire du name dropping non plus sans arrêt. Mais, en tout cas, voilà, c'est pour confirmer ce que tu disais, voilà, ce côté extrêmement profond sur cette classe de edge rusher. L'autre poste, tu l'évoquais tout à l'heure, Jean-Mi, c'est le poste notamment de cornerback. Alors c'est vrai que les defensive backs globalement ont été à la fête, hein. Il y a eu quelques safeties qu'on a vu à leur avantage. Mais c'est vrai que sur le poste de corner, en tout cas, il y a pas mal de joueurs qui ont rassuré. Un des noms, par exemple, qui me vient en tête, c'est celui de Riley Moss, le corner d'Iowa, il y avait ce petit point d'interrogation où certains le considéraient un peu comme un safety, notamment à l'échelon supérieur. D'un point de vue vitesse, notamment, on pouvait s'interroger sur son aptitude. On sait que c'est un joueur capable de réaliser des actions de classe, hein. Il avait réalisé un certain nombre d'interceptions en 2021. Et voilà, c'est un vrai cornerback, un vrai defensive back capable de punir le quarterback adverse en cas de lancer un petit peu approximatif. Très clairement, en tout cas, il a rassuré sur son aptitude à être un joueur capable de s'adapter au tracé adverse. Un cornerback très intelligent, et de toute façon du côté d'Iowa il y a souvent des profils très très adeptes du QB football. Je prenais cet exemple là mais il y a un ancien coéquipier à lui, hein, qui joue du côté de Kansas State et qui, je crois, a attiré ton œil, en l'occurrence Julius Brents également, qui a marqué quelques points du côté du Senior Bowl. Là aussi ça va être quelque chose à surveiller. On parle beaucoup de Cam Smith du côté de South Carolina, mais quand on voit la prestation de Darius Rush, notamment sur les ateliers de la semaine, bah on voit qu'il y a des points qui ont été marqués. Et alors, il y a un Tyreek Stevenson du côté de Miami qui est très polyvalent, qui s'est décalé plus sur l'extérieur et qu'on commence déjà à soupçonner un petit peu au deuxième tour. Un joueur qui, moi, m'intrigue tout particulièrement, et d'ailleurs, c'était une des belles histoires de ce week-end du côté de Mobile, c'est Anthony Johnson de Virginia, auteur donc d'un pick-six et qui a rendu d'ailleurs hommage à un de ses... un de ses anciens coéquipiers de Virginie a tristement décédé dans la tuerie de Charlottesville l'année dernière. Anthony Johnson, qui à mon sens peut jouer corner, peut peut-être jouer même plus safety à l'échelon supérieur, qui a un vrai coffre, en tout cas vraiment sur le run stop, c'est un joueur qui peut énormément apporter. Il a un certain flair, et ça s'est vu en l'occurrence sur cette action-là. Mais beaucoup de joueurs, en tout cas, beaucoup de joueurs complets et capables d'apporter là aussi une plus-value au sein du secondary en NFL.
Oui, c'est ça, une très très belle classe, oui. Alors, avec des gabarits un peu plus classiques, tu vois, tu parlais des safety, par exemple, Sidney Brown, le frère de Chase Brown de Illinois, qui a fait aussi un très bon senior bowl, qui a plutôt ce gabarit classique, voilà, du box safety, etc. Mais sinon, moi, je remarque qu'il y a vraiment une tendance avec les joueurs très grands. Et c'est vrai qu'avant, on se posait la question, ah ouais, mais lui, il joue au corner, mais il fait 6-3, 6-4, est-ce que vraiment on va le laisser corner? Est-ce que ça serait pas mis en safety? Tu prenais l'exemple d'Anthony Johnson, par exemple, qui fait 6-2, qui est très grand. Mais on a vu l'année dernière, par exemple, avec Tariq Woolen, que ben oui, tu peux être aussi très grand et puis rester à l'extérieur et ça peut marcher. Et c'est ce qui me donne à penser que Julius Brents de Kansas State, ben, il pourrait aussi rester à l'extérieur parce que lui aussi est très grand. Il est comme Tariq Woolen, voilà, c'est un joueur très grand, très physique, qui en plus a de bons instincts, de bonnes. Voilà, il arrive à suivre les joueurs malgré son gabarit, etc. Donc on voit de plus en plus de cornerbacks très grands. Il y en avait quelques-uns, comme tu les as cités là, même un Tariq Stevenson, il n'est pas très grand, mais il est plus imposant que la moyenne des cornerbacks, etc. On a vraiment du gabarit à cette position, et cette classe de cornerback, elle est fabuleuse, parce qu'évidemment, si on rajoute en plus ceux qui n'étaient pas là, les underclassmen, genre Joey Porter, qui fait 2m50, enfin voilà, on a beaucoup de grands et de très très bons joueurs. C'est une très très belle cuve.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas cité les underclassmen, mais il n'y avait pas du Christian Gonzalez d'Oregon, il n'y avait pas du Devon Weatherspoon d'Illinois, qui lui, bon, un peu plus petit, mais qui en tout cas, voilà, tu citais notamment Joey Porter, Kelly Ringo également, qui fait la même taille que Porter. J'en oublie sûrement. Emmanuel Forbes, c'était pas là, il me semble, de Mississippi State aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de joueurs, mine de rien. Et c'est vrai que là aussi, on ne va pas faire trop long non plus, mais c'est vrai que sur la position de safety, je sais qu'il y a un Marte Mapu, par exemple, de Sacramento State, alors qui joue un peu linebacker safety apparemment du côté de Sacramento State, mais on voit là aussi qu'il est capable d'avoir un coffre intéressant. Un Jimmy Robinson de Florida State, alors moi je le vois peut-être plus comme un special teamer, vraiment plus en NFL que comme un vrai safety capable d'être pleinement titulaire, mais en tout cas il a été redoutablement efficace sur ce match-là. Enfin, sur cette semaine-là, pardon, je vais y arriver. Et puis voilà, il y a d'autres profils qu'on pourrait citer. Un Jay Ward qui n'est pas spécialement à la fête, mais qui a annoncé voilà, qu'il peut être un très très bon corner à l'échelon supérieur. Donc voilà, franchement, il suffit de se baisser vraiment, et je pense qu'il y aura des très très bonnes opérations. Je pense que ça fera partie de nos bonnes affaires assez régulières, les defensive backs, au cours des prochaines semaines.
Ah ouais, tout à fait. C'est une très très belle classe, et puis il y a de tout, et on les a vus au Senior Bowl, il y a de tout. Donc tu vas avoir du grand comme Brents, mais tu vas avoir par exemple un Christopher Smith qui jouait plutôt safety avec Georgia, mais en fait c'était surtout un nickelback, et on voit qu'il peut faire les deux, il peut jouer vraiment nickelback. Tu parlais à l'instant de Jamie Robinson, alors c'était un safety, c'est plutôt un bon cogneur avec Florida State, et puis là on l'a vu, en 1 contre 1, il n'y a pas de souci, il est bon en couverture, il comprend les lignes de passe, il arrive à suivre son receveur, il apporte aussi en couverture, donc c'est quelqu'un qui, pour moi, alors que même pendant la saison, je me disais, oui, ça va être un joueur de complément, tu prends peut-être au 5e tour, ben non, moi je pense qu'il sera pris bien plus haut que ça, sans doute au 3e, il peut apporter dans les deux domaines qu'on attend d'un defensive back, c'est-à-dire à la fois contre la course, mais également en couverture. C'est vraiment deux superbes QV, quoi, celle de pass rusher et celle de cornerback, c'est incroyable le talent qu'il y a cette année.
Est-ce que tu as des curiosités particulières? C'était pas forcément quelque chose qu'on avait préparé en amont, mais est-ce qu'il y a des choses que tu es très curieux de voir à l'occasion de ce combine, avec du coup senior et underclassmen confondus?
Ben écoute, ouais, puisqu'on est toujours sur le Senior Bowl, il y a un joueur que j'attends aussi au Combine, c'est Evan Hull, le running back de Northwestern, parce que lui m'a vraiment surpris, c'est-à-dire que Evan Hull, oui, il a fait une bonne saison, tout ça, mais quand tu le vois, tu te dis, ah ben c'est un fullback le gars, je veux dire, il est pas très grand, il est hyper costaud, ok, c'est un fullback, il peut faire des trucs, mais on l'a vu au Senior Bowl, c'est incroyable, non seulement il sait courir, mais il apporte aussi dans le jeu aérien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai raté un truc, donc je suis retourné voir, et effectivement, même avec Northwestern, il apportait dans le jeu aérien, donc voilà, c'est quelqu'un qui a un super gabarit, qui est costaud, qui peut couvrir plein centre, mais en même temps, il est capable également de se démarquer, d'attraper les ballons et de faire des choses. Donc oui, je l'attends au NFL Combine. Et puis, puisqu'on parle du Combine, ben, forcément, c'est l'événement hyper important tous les ans. Je sais qu'il y a des détracteurs qui disent, ah, mais c'est pas du football, c'est de la gym. Sauf que, ben, les qualités athlétiques, c'est important sur le terrain. Et évidemment, les cotes, elles vont fluctuer. Et elles vont fluctuer pourquoi? C'est pas juste le temps que tu fais sur le sprint du 40 yards. Elles vont fluctuer parce que, ben, pendant la saison, les entraîneurs, les managers, ils ont autre chose à faire. Il y a la saison NFL. Mais à partir du Senior Bowl et surtout du Combine, ben, les vrais décideurs sont là, sont sur place. Et donc, cette impression live qu'ils ont des joueurs, les joueurs qu'ils rencontrent en entretien, etc. C'est ça. C'est surtout ça qui fait que d'un coup, t'as un joueur, sa cote le grimpe parce que le manager est là, l'entraîneur est là. Ils se disent, oh, ce joueur dans mon système, ça serait bien, etc. Et donc, du coup, il y a des cotes qui vont fluctuer au Combine.
Tout à fait. Je te rejoins totalement sur Evan Hull. Hein, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est du profil Austin Eckler. Hein. Je pense que c'est vraiment un joueur capable d'être une vraie pile électrique et presque plus dangereux dans le domaine aérien que vraiment typiquement au sol. Et c'est vrai que alors, si vous avez l'occasion, alors, c'est vrai que malheureusement c'est un peu paradoxal parce que Northwestern cette saison c'était pas forcément à la fête d'un point de vue résultat. Mais on l'a dit, entre Peter Skoronski, Ade Adebawore et Evan Hull, il y a déjà au moins trois prospects très intéressants à surveiller. Donc si vous avez l'occasion de suivre des matchs de 2022 notamment, ce sera à faire à coup sûr. Concernant ce combine, des petites choses intéressantes à noter. Donc du coup, les premières arrivées sur zone se feront le 26 février, donc le dimanche 26 février. Et déjà, une des premières nouveautés, Jean-Mi, c'est que les défenseurs seront les premiers à être à l'honneur. Hein. Généralement, on avait plutôt d'abord, alors c'était les quarterback receveurs, ensuite c'était les running back linemen, et après on passait aux défenseurs pour terminer les ateliers, les entrevues, etc. etc. Là, ce seront... d'abord, les linemen défensifs et les linebackers qui seront à l'honneur. Donc, voilà. Je sais pas trop, ça a changé énormément de choses au niveau de la formule. Mais en tout cas, pour une fois, on adapte un petit peu le programme. Et ce sera pas forcément une mauvaise chose pour voir un petit peu autre chose. Tu parlais des entretiens. Il me semble avoir vu, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, qu'apparemment, il y avait des risques de sanctions pour les franchises qui posaient des questions interdites lors des interviews, ou en tout cas des questions un peu borderline. Donc voilà, il va falloir savoir tenir sa langue du côté des scouts et pas poser des questions un petit peu tendancieuses à base d'armes à feu, etc., etc. Parce que du coup, ça peut en effet coûter cher par la suite. Et n'hésitez pas à continuer de suivre l'actualité de la draft et de la NFL en général sur Touchdown Actu. Vous avez actuellement les War Rooms qui sont publiés jusqu'à la mi-mars à peu près, en tout cas jusqu'au début de la Free Agency. Les fiches draft arrivent très rapidement également. Il y aura beaucoup d'autres choses qu'on développera au cours des prochaines semaines.
Oui, et d'ailleurs, en termes de nouveautés, cette année, on va vous proposer 8 scouting reports en vidéo. Voilà, en vidéo. On espère qu'on va pas se faire striker, mais a priori, voilà, on utilise beaucoup d'images au ralenti, etc. On décortique quelques actions de 8 joueurs qui vont partir sans doute au premier tour. Donc voilà, c'est une nouveauté qu'on va vous proposer cette année. À partir du mois de mars, vous pourrez voir un petit peu les joueurs avec leurs actions qu'on va décortiquer, vous expliquer un petit peu leurs forces et leurs faiblesses. Donc voilà, c'est une nouveauté 2023 et j'espère que ça vous plaira.
TouchdownActu.com, @TDActu sur Twitter, etc. Donc voilà, restez bien connectés pour suivre toute l'actualité de la NFL, surtout encore plus avec le début de cette période draft. Salut à tous.
Allez, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.